Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Alors, on en parlait hier, notamment avec Kathleen Vail, de tout ce débat depuis quelques jours que l'on voit sur le HEC Montréal qui a mis une fille voilée dans sa publicité destinée à des étudiantes algériennes, une fille qui est voilée. Et évidemment, Jean-François Lisée s'insurge de l'utilisation d'une photo d'une Québécoise voilée pour faire de la publicité. Mais il y a de nouvelles études sur la loi 21. Tom Mulcair, je sais que ça t'intéresse.
Hey, oui, salut Yasmine. Oui, c'est fort intéressant. C'est une étude qui a été menée ni plus ni moins par Léger et par ce qu'on appelle l'Association d'études canadiennes. Et c'est fort intéressant et révélateur. Une des choses qui m'a marqué le plus, c'est que les gens qui s'y opposent le plus sont des hommes, surtout d'un âge plus avancé, et qui habitent dans des régions où ils auraient eu peu ou pas de contact avec des gens d'autres religions. Qui est le moins apte à s'opposer à la loi 20, qui est le moins apte à appuyer la loi 21, donc à s'y opposer le plus? Ce sont les jeunes femmes de 18 à 24. Alors, c'est fort intéressant comme statistique et comme information. En d'autres mots, les mononcles qui disent tout le temps, moi, je suis en faveur de la loi 21, je compte les signes religieux parce qu'une question d'égalité des femmes. Ah ouais, les jeunes femmes qui évoluent dans le milieu universitaire, dans une société qui est de plus en plus pluraliste, diversifiée, se disent non, il y a aucune raison d'avoir une loi comme ça. Alors ça, c'est intéressant pour moi. Ça montre qu'il y a vraiment une question d'attitude générationnelle et de différence de genre, parce que même dans les groupes d'âge où les hommes appuient François Legault le plus, les femmes sont plus réticentes à l'égard de la loi 21. L'ironie, à mon point de vue, c'est que François Legault, c'est la personne qui est en train de dire aux musulmanes qu'est-ce qu'elles peuvent porter ou pas porter, ou une femme d'une autre religion qui porte un signe. Mais ce sont surtout les musulmanes qui sont ciblées et par la loi 21, parce qu'il y a tout un chapitre qui ne peut s'appliquer qu'aux musulmanes, et dans la société, parce que les incidents et événements tristes de discrimination ouverte, le sentiment d'être visé, de ne pas pouvoir participer pleinement à la société québécoise, puis ça, c'est ressenti surtout chez les musulmans, les sikhs, proches parents, les juifs, un petit peu moins.
Est-ce que la publication de ce genre de sondage de manière préélectorale peut raviver le débat sur l'identité qui, on le sait, peut propulser la CAQ vers d'autres cieux?
C'est intéressant comme analyse, mais moi, je fais exactement le contraire comme analyse et comme conclusion. Moi, je me dis que François Legault se pète les bretelles depuis que la loi 21, qui, soyons clairs, discrimine ouvertement contre les minorités religieuses. François Legault dit, moi, j'ai une vaste majorité des gens avec moi. Comme si les droits des minorités, Yasmine, étaient une question de concours de popularité. Non, c'est une question de droits fondamentaux, puis un droit, c'est un droit. Et on a le droit d'avoir sa liberté de religion. Et les gens essaient, Legault a dit le contraire de la vérité au début avec la loi 21, puis disent non, tout ça c'est dans le rapport Bouchard-Taylor 1, ça c'était faux. Le bout sur les enseignants, qui est le bout le plus controversé, ça n'a jamais été recommandé, préconisé par Bouchard-Taylor. Donc, il a été obligé d'admettre qu'il avait dit une fausseté, mais ça reviendra inévitablement lors de la campagne, parce que le Parti libéral, l'opposition officielle de Dominique Anglade, est en train de dire qu'il y a du bout là-dedans, notamment sur les enseignants qui changeraient. Et d'une manière très intéressante, juste avant le début de l'été, à la fin de la session parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, d'une manière assez courageuse à mon point de vue, a clairement dit que s'ils étaient élus, Québec solidaire changerait le chapitre sur l'applicabilité de la loi 21 aux enseignants et enseignantes. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un parti progressiste et ils étaient en train de dire ils vont vivre et appliquer ce qu'ils prêchent. Pour ce qui est des libéraux, on se souviendra que Dominique Anglade, lorsque cette jeune enseignante a perdu son poste dans Chelsea, dans l'ouest du Québec, elle a dit qu'elle ne le défendrait pas. C'était sur une nuance parce qu'elle disait, ben, elle enfreint la loi, je peux pas appuyer ça. Ça se comprend comme chef de parti et chef d'opposition. Mais il va falloir quand même que Dominique Anglade, qui est elle-même issue de l'immigration, elle est née ici, mais de parents qui étaient nés, pas juste des gens qui immigraient d'un autre pays, ils fuyaient la persécution. Son père avait été mis en prison par le régime Duvalier. Elle sait ce que c'est de vivre l'oppression à cause de la politique, à cause de ses origines et ainsi de suite. Donc, j'ai hâte de voir quel Dominique Anglade va se présenter dans la campagne électorale.
Mais Tom, Dominique Anglade a dit, pour essayer de se sortir, en fait, elle ne veut pas parler du sujet. Elle sait que le sujet ne la met pas dans une position de force, la met dans une position défensive. Et elle dit, moi, comme première ministre, je ne renouvellerai pas la clause dérogatoire.
Oui.
Ça peut s'expliquer, ça peut justifier.
Mais oui, la question parce que...
Oui?
Oui, vas-y.
La question que je me posais, Dominique Anglade, si elle est élue première ministre, elle ne renouvelle pas la clause dérogatoire. Le jour où la loi va être contestée, puisque la clause dérogatoire ne protégerait plus les dispositions discriminatoires, les procureurs d'un gouvernement de Dominique Anglade vont faire quoi?
Ben, ça va être très intéressant. Ils vont être obligés de plaider que le Québec peut faire ça. Ça, c'est impossible pour les procureurs du gouvernement du Québec, du ministère de la Justice, de ne pas défendre une loi. Mais advenant le cas, justement, que les tribunaux, puis il y a un courant de pensée qui dit qu'on peut utiliser la clause non-absence, c'est écrit dans la Constitution de 1982. Mais on ne peut pas l'utiliser a priori et d'une manière mur à mur, comme la CAQ propose de le faire. Pas juste avec la loi 21, mais aussi avec la loi 96, et j'en passe. Donc, c'est une tendance lourde chez la CAQ de dire, nous, là, les gars à l'Assemblée, puis j'entendais bien la conversation avant, qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'avant, tant mieux. Mais c'est cette tendance-là de dire, à l'Assemblée nationale, c'est nous qui allons dire qu'est-ce que vous avez ou que vous n'avez pas comme droit. Moi, je suis assez vieux pour avoir été... au gouvernement du Québec, au ministère de la Justice, lorsque toutes ces questions-là étaient débattues au début. Et le Québec peut fièrement démontrer qu'on était vraiment la première place au Canada à garantir certains droits. Les droits, par exemple, pour les LGBTQ, Québec était en avance là-dessus. Et là, on est en arrière. On est la seule juridiction en Amérique du Nord à restreindre les droits des minorités religieuses de la manière qu'on le fait là.
C'est quand même particulier, d'un point de vue politique et stratégique, François Legault a quand même réussi un pari qui était risqué, mais qui semble payant, celui de mettre de côté le clivage fédéralisme-souverainisme pour faire émerger une nouvelle forme de nationalisme. Disons-le comme ça, de manière caricaturale.
Oui. Mais non, c'est bien dit.
Mais si on revient à la contestation du projet de loi 21, la Cour suprême va finir par se prononcer.
Oui.
Peut-être que 96 va s'imposer. Est-ce que ça va être un retour du clivage fédéralisme-souverainisme qui va s'imposer à François Legault où il devra prendre position, qu'il le veuille ou pas?
Ben, je pense qu'il veut. Si on lit l'entrevue que François Legault a donnée, c'était une de ces entrevues où on pose les mêmes questions à tous les chefs de parti à l'aube de l'élection de 2018, donc il y a 4 ans. C'était dans l'actualité, si les gens le recherchent. On lui pose la question, tu étais souverainiste longtemps, blablabla. Il donne une réponse un peu en parabole, puis il dit, bon, on a essayé à 2 reprises de régler ça en un grand soir. Moi, je vais aller chercher plus de pouvoir. Plus de pouvoir dans quoi? En immigration, en culture et en langue. Alors, c'est ce qu'il s'applique à faire depuis le début. Il n'est pas cave à temps complet, François Legault. Il sait ce qu'il est en train de faire.
Il est en train de créer les conditions gagnantes, là, les fameuses conditions gagnantes.
Ben oui, parce que je vais donner un exemple. Sortons de 21, allons avec 96. C'est écrit en autant de lettres dans la Constitution de 1982 qu'il est interdit de changer la Constitution d'une province si ça touche les droits linguistiques sans avoir une motion des 2 chambres du Parlement du Canada, c'est-à-dire la Chambre des communes et le Sénat. Or, François Legault, avec son fier à bras Simon Jeanlin Barrette, a dit « Moi, je vais changer ça unilatéralement. » La gang à Ottawa, que ce soit Trudeau, à l'époque, c'était O'Toole et Singh et tout ça, ils ont trop peur du Québec pour dire ben, « C'est contraire à la Constitution. » Ils vont laisser la job de bras aux tribunaux. Mais parce que c'est évident. Yasmine, il n'y a pas de doute là-dessus que c'est illégal ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont enlevé des droits linguistiques devant les tribunaux. Et la Cour suprême dans Blakey, en 1979, et la Cour suprême dans le renvoi sur le Manitoba ont explicité que tu ne peux pas faire ça et ça a été reconduit dans la Constitution de 82 avec cette obligation. La preuve, c'est que quand on a voulu changer nos commissions scolaires, de commissions scolaires sur la base d'une religion à des commissions scolaires linguistiques, j'étais là, à l'Assemblée nationale à l'époque, il fallut aller à Ottawa, c'était Lucien Bouchard, il fallait demander permission, si on veut, fallait demander permission de faire ce changement-là. Une fois qu'on avait les deux résolutions, Chambre des communes et Sénat, c'était réglé. On a changé notre système et c'est un changement constitutionnel. Donc, pour répondre à ta question et en lien avec cette entrevue que Legault a donnée il y a 4 ans, à mon point de vue, c'est clair comme l'eau de roche qu'il est beaucoup plus proche de Drainville et de Caroline Saint-Hilaire dans ce qu'il souhaite. Il a juste constaté que ça n'a jamais été possible de faire un Québec indépendant en une grande soirée, en posant la question clairement. Et oui, il va essayer de créer des conditions où lui, il peut dire « Ah, c'est épouvantable, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les droits des gens. Il va falloir qu'on s'en aille de ce pays infernal qui est le Canada. »
Mais François Legault n'a jamais fait de profession de foi fédéraliste. Là. Il n'a jamais dit « Je suis devenu fédéraliste ». Il a fait le constat, il a pris acte du fait que les Québécois ne sont pas prêts à aller à la souveraineté.
Exact.
Et ça, c'est différent.
C'est pas tout à fait la même chose.
Et on peut pas dire que parce qu'on va vivre dans un statu quo, qu'on est devenu fédéraliste. Le fédéralisme, c'est déjà croire en la fédération et vouloir travailler pour que la fédération fonctionne. Et j'ai pas l'impression
que la diversité fait partie des valeurs fondamentales de notre pays. On peut pas, d'un côté, avoir des lois comme la loi 21 qui refuse la diversité, la pluralité, l'acceptation de l'autre et de ses droits. Moi, quand j'étais petit, dans notre voisinage, il y avait une des premières familles de l'Inde qui était venue s'installer chez nous à la bord de Plouf, ce qui est aujourd'hui à Laval. Et je me souviens de ma grande sœur demandant à ma mère, disant, c'est quoi la robe que la madame porte? Elle portait un sari. Alors, elle dit, va lui demander. Ben, ma sœur est allée demander à la madame, qui lui a expliqué qu'en Inde, les femmes portent une robe comme ça. Et c'était pour moi une ouverture. Juste te dire, ben oui, il y a différentes manières de s'habiller, de se présenter, puis c'est pas grave. On peut accepter les autres. Cette idée que tu as évoquée au début, c'est tellement attristant. Parce qu'on parle pas d'un policier, on parle pas d'un gardien de prison, on parle pas d'un juge, ni d'un procureur de la couronne. La jeune femme dont on a osé mettre la photo. Et puis, il faut faire attention aux mots. Quand on dit voilé, on peut avoir l'impression que la personne voile son visage. On parle d'un foulard. Et dire que ça, c'est épouvantable d'avoir mis cette photo-là au HEC. Donc, on sait que la loi 21 est supposée de viser ces catégories d'emploi et quelques autres, mais dans les faits, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est tolérable d'être intolérant. Et c'est de l'intolérance de dire que cette jeune femme, qui n'a rien fait à personne, qui fait juste porter un hijab, Elle a fauté. C'est épouvantable de montrer ça, là.
Et de dire
ça,
que ce n'est pas une juste et fière représentante de la communauté estudiantine de HEC Montréal, c'est de lui faire porter une responsabilité qu'elle n'a pas choisi de porter, elle.
Oui. Puis en plus, là, le chat sort du sac, hein? Pour rester avec l'image, les masques tombent. Parce que les gens qui disent « Non, non, 21, c'est le pouvoir contraignant de l'État. C'est une question de laïcité de l'État. » Ah, ouais? Attaquer cette jeune femme-là, attaquer l'Université de Montréal, attaquer HEC, parce qu'ils ont osé montrer, comme si c'était quelque chose de honni et à bannir et à cacher. Et ça, là, moi, je suis content de ce débat-là, parce que je soupçonnais depuis longtemps qu'en arrière de tout le reste, c'était ce genre d'intolérance-là. Là, ça s'est exposé au grand jour. Et ça, c'est une honte, les gens qui sont en train de s'attaquer à cette représentation d'une personne qui est juste étudiante, qui vient d'un autre pays et qui, oui, Et elle dit, ben, je fais partie de qui je suis. Dans ma famille, ma grand-mère n'en portait pas, une de mes soeurs, mes tantes n'en portent pas. Moi, c'est comme ça que je m'identifie.
Mais pourquoi elle a besoin de justifier?
Parce qu'on l'attaque. On attaque les HEC. Puis donc, Rima El-Khoury, hier, dans la presse, a fait une fichue de bonne job. Elle a réussi à lui parler. Puis elle a été superbe et simple et claire dans ses réponses. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. En tout cas, tout ça pour dire que ça va être l'objet de beaucoup de débats. C'est tout sauf régler la loi 21. Ça va être dans les débats, dans cette campagne électorale qui s'amorce la semaine.
Tom Mulcair, toujours un plaisir. On se parle demain.
Allez. Oui, avec plaisir. À très bientôt.